Bonjour à toutes, bonjour à tous, Jérôme Longuet pour ce journal de la Radio des Nations Unies. Au menu, Ban Ki-moon se félicite de l'engagement renouvelé d'Israël à maintenir le statu quo sur l'esplanade des mosquées. L'ONU alarmée par la situation humanitaire au Yémen. L'Europe s'engage à accueillir 100 000 réfugiés supplémentaires. Nous ferons aussi le point avec la représentante de l'ONU sur le premier tour des présidentielles en Côte d'Ivoire. Enfin, ce sera l'heure de retrouver votre rendez-vous de Fréquence Santé. Le secrétaire général se félicite de la déclaration du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou qui réitère l'engagement d'Israël à maintenir le statu quo autour de Haram al-Sharif, mont du Temple à Jérusalem, et ce à la fois dans les mots et dans la pratique. Ban Ki-moon qui espère notamment que le renouvellement de ses engagements contribue à résoudre les préoccupations et mette un terme aux rhétoriques provocatrices qui n'ont fait qu'alimenter les tensions et la violence au cours des dernières semaines. Isabelle Dupuis.
Dans une déclaration publiée tard dans la soirée de dimanche, Ban Ki-moon a pris note de l'affirmation du Premier ministre Netanyahou, selon laquelle Israël n'a aucune intention de diviser les lieux saints et que l'État respecte en outre l'importance du rôle particulier dévolu au royaume hachémite de Jordanie, tel que reflété dans le traité de paix signé en 1994 entre Israël et la Jordanie, ainsi que le rôle historique du roi Abdallah II. Le secrétaire général espère que le renforcement des mesures de sécurité entre Israël et le Waqf jordanien permettra de veiller à ce que les visiteurs et les fidèles fassent preuve de retenue et respectent la sacralité des lieux. Ban Ki-moon souligne que c'est uniquement en rétablissant le calme que les parties pourront de nouveau axer leurs efforts sur le renouvellement de la confiance et la création de conditions propices sur le terrain, dans la région et sur le plan international pour tenir des négociations significatives pour une solution à deux États, ainsi que pour mettre un terme à l'occupation datant de 1967.
On reparle du Yémen. Le coordonnateur humanitaire des Nations Unies, Johannes van der Klauw, attire une nouvelle fois l'attention sur la situation dramatique, notamment dans la ville de Taiz. À l'échelle nationale, 80% des personnes ont besoin d'une assistance humanitaire et 20 millions n'ont pas d'accès à l'eau potable. Une situation que déplore l'envoyé spécial du secrétaire général, Ismail Ould Cheikh Ahmed, qui place de gros espoirs dans les pourparlers censés avoir lieu d'ici deux semaines.
Il s'agit aujourd'hui d'un ensemble de facteurs qui compliquent la situation. D'un côté, nous avons une guerre qui continue et qui affecte principalement les civils. Nous avons beaucoup de victimes civiles, à la fois à cause des bombardements aériens, mais aussi à cause des bombardements contre les villes sur le terrain. Donc cette guerre affecte aujourd'hui principalement les civils. Ça, c'est la première raison d'être inquiet. La seconde raison est liée à une situation humanitaire qui est dramatique, avec plus de 21 millions aujourd'hui des Yéménis, plus de 80% de la population qui est en souffrance et qui a un besoin d'eau, de médicaments et d'alimentation. Et la troisième raison d'être plus inquiet, et qui inquiète le monde entier à mon avis, c'est le développement des groupes terroristes, en particulier Al-Qaïda et Daesh, qui aujourd'hui avaient déjà un refuge au Yémen, mais qui aujourd'hui se développent dans cette guerre et qui sont les seuls bénéficiaires de cette guerre. Donc ce cocktail de trois éléments nous pousse à dire qu'il n'y a qu'une solution politique et qu'il faut retourner à la table des négociations le plus tôt possible.
Les pays touchés par la crise des réfugiés en Europe, notamment sur la route des Balkans, ont décidé dimanche soir de créer 100 000 places d'accueil pour mieux juguler cet afflux, dont 50 000 en Grèce. C'est le résultat de ce mini-sommet réunissant les 8 pays de l'Union européenne sur cette route, ainsi que la Serbie, la Macédoine et l'Albanie. Devant la presse, le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a invité les pays à agir collectivement.
Il s'agit maintenant de mettre en pratique les engagements sur lesquels nous nous sommes mis d'accord aujourd'hui. Nous avons beaucoup parlé de valeurs européennes au cours des semaines et mois écoulés, mais vous savez comme moi qu'elles ont été insuffisamment mises en action. Nous allons maintenant procéder à la fin de chaque semaine à une évaluation complète des progrès entrepris. Il n'y aura pas de solution miracle. Fermer les frontières n'est pas une solution à long terme. La solution, c'est d'agir en européen de façon solidaire et responsable en combinant l'ensemble de nos outils politiques, législatifs, financiers, opérationnels. L'Europe ne se construit pas les uns contre les autres, l'Europe se construit les uns avec les autres.
On reparle du Mali avec l'explosion ce week-end de mines antipersonnelles près de Tessalit, dans la région de Kidal. Bilan, 3 civils tués et 2 casques bleus blessés. Ils font partie de la mission onusienne déployée dans le pays, la MINUSMA. Florence Westgaard.
Trois civils ont été tués, deux casques bleus ont été blessés samedi lors de l'explosion de mines près de Tessalit, dans la région de Kidal, au nord du Mali. Selon la MINUSMA, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, les trois civils ont péri à la suite de l'explosion d'une mine ou d'un engin explosif. La même MINUSMA qui précise qu'alors que des casques bleus se rendaient sur les lieux vers 2h30 heure locale, deux soldats de la paix ont été blessés, dont un sérieusement, suite à l'explosion d'une autre mine à 5 km au sud du camp de la MINUSMA à Tessalit. La mission onusienne qui condamne fermement de tels actes qui ont pour but de paralyser ses opérations sur le terrain et de toucher indistinctement le personnel des Nations Unies ou des civils innocents. La MINUSMA a présenté ses condoléances aux familles endeuillées et a souhaité un prompt rétablissement à ses soldats de la paix.
Enfin, la consommation de charcuterie est cancérogène, celle de la viande rouge probablement cancérogène pour l'homme. Tel est le résultat d'une étude sur la cancérogénicité de la consommation de la viande rouge et de la viande transformée faite par le Centre international de recherche sur le cancer, l'agence de l'OMS spécialisée sur le cancer, basée en France à Lyon. Alpha Diallo.
Un rapport du Centre international de recherche sur le cancer pointe du doigt les effets néfastes sur la santé de la charcuterie. La viande transformée pourrait provoquer le cancer colorectal chez l'homme et ce risque augmente avec la quantité consommée, précise le CIRC. Selon les experts, chaque portion de 50 grammes de viande transformée consommée quotidiennement augmenterait le risque de cancer colorectal de 18%. Pour ce qui est de la viande rouge, l'agence de l'Organisation mondiale de la santé spécialisée sur le cancer indique qu'elle est probablement cancérogène. Pour les chercheurs, le porc est inclus dans les viandes rouges au même titre que le bœuf, le veau, l'agneau, le mouton, le cheval et la chèvre. Faut-il pour autant arrêter de manger de la viande? L'agence de l'OMS ne tire pas la conclusion qu'il faut devenir végétarien. Ce résultat confirme les recommandations de santé publique actuelles appelant à limiter la consommation de viande, avertit le CIRC. Une façon de rappeler que la viande rouge n'est pas dénuée de valeurs nutritives. Alpha Diallo Genève pour Radio des Nations Unies.
Vous écoutez un programme de la Radio des Nations Unies.
Retour sur l'actualité, l'ONUCI, l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, n'a signalé aucun incident lors du déroulement des élections présidentielles dimanche. Conformément à la résolution 2226 du Conseil de sécurité, l'ONUCI a apporté un appui logistique grâce notamment au déploiement de 6000 casques bleus. Aïchatou Mindaoudou, la représentante spéciale du secrétaire général en Côte d'Ivoire, revient sur le bon déroulement des élections au micro de Tsigechi Ferao.
Pendant toute la durée des opérations électorales hier et même jusqu'à aujourd'hui après ces opérations électorales, aucun incident relatif à la sécurité n'a été enregistré. Je voudrais féliciter vraiment le peuple ivoirien parce que une fois encore, il a su mettre en avant l'intérêt général et le respect des principes démocratiques. Le vote s'est déroulé dans le calme, dans la sérénité et avant le vote, pendant 2 semaines, la campagne électorale s'est déroulée dans le calme et la sérénité.
Est-ce que vous pouvez revenir sur l'appui logistique qu'a apporté l'ONUCI? À quel niveau a été cet appui?
Nous avons donc transporté l'ensemble du matériel de vote dans les 108 départements de Côte d'Ivoire pour la CEI. Et à partir d'aujourd'hui, nous sommes en train de ramener ce matériel de vote, y compris les procès-verbaux, vers Abidjan pour le bénéfice de la CEI. Donc c'est cet appui logistique que nous avons donné. Sur le plan sécuritaire, 6000 bérets bleus ont participé à la mise en œuvre du plan sécuritaire qui a été élaboré par la police, la gendarmerie et les forces républicaines de Côte d'Ivoire en collaboration avec les casques bleus pour la sécurisation des élections. Ce dispositif sécuritaire va rester en place jusqu'aux environs du 2 novembre 2015. Donc voilà l'appui que nous avons apporté.
Quand est-ce que le deuxième tour va se dérouler?
En fait, vous savez, tout dépendra des résultats que nous attendons entre aujourd'hui et demain. Si pendant ce premier tour, l'un des candidats remportait la majorité absolue, donc il n'y a pas de deuxième tour. Si ce n'est pas le cas, le deuxième tour sera organisé dans 2 semaines.
Est-ce que vous aidez la CENI en termes de logistique aussi pour comptabiliser les résultats?
Non, cette année, contrairement à ce qui s'est passé en 2010, l'ONUCI n'est pas du tout impliqué dans les opérations de vote. Par exemple, nous n'avons pas eu une seule présence d'un béret bleu, que ce qu'il soit civil ou militaire, dans les bureaux de vote. Donc, nous n'intervenons pas dans le comptage des résultats. Par contre, Un autre aspect important de notre appui se rapporte à la sensibilisation et à l'information. Nous avons aidé la CEI à informer sur toutes les étapes du processus électoral à travers notre radio Onusie FM. Et aussi, dans toujours le cadre de ces élections, et pour mettre en œuvre le mandat de protection des civils que nous avons, moi, personnellement, j'ai sillonné toute la Côte d'Ivoire pour rencontrer les populations, les autorités préfectorales et administratives, les chefs traditionnels, les chefs de communauté, les sociétés civiles, les élus, les cadres, les femmes, les jeunes, les partis politiques. Tout ça pour créer ce que nous demandait la résolution, un environnement favorable à la tenue des élections présidentielles de 2015. Toutes les divisions de la mission sont engagées depuis presque 2 ans dans tout ce travail de base qui a servi à asseoir le climat apaisé pour la tenue des élections.
Fréquence santé.
Le noir de carbone, l'ozone et le méthane, fréquemment décrits comme des polluants climatiques à courte durée de vie, participent fortement au réchauffement planétaire. Ils contribuent aussi aux 7 millions de décès prématurés annuels liés à la pollution atmosphérique. C'est ce qui ressort d'un rapport de l'OMS concernant les risques sanitaires des polluants climatiques à courte durée de vie. Pour en savoir plus, Alpha Diallo a tendu son micro à Maria Neira. Elle est directrice du département de la santé publique et de l'environnement à l'OMS.
Les rapports qu'on présente se concentrent sur ces polluants qui sont dans l'environnement, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur des maisons quand on cuisine avec des combustibles fossiles. Et ces particules ont un impact très négatif sur notre santé, sur les maladies respiratoires et les maladies cardiovasculaires. Si on se concentre sur ces polluants qui restent entre quelques jours et 10 ans, qui sont considérés courtes, pas aussi longues dans l'atmosphère comme les CO2, on peut avoir des bénéfices énormes pour contribuer à réduire le réchauffement global et en même temps, on peut avoir des résultats très positifs et très vite sur notre santé en réduisant ces 7 millions de morts qu'on a chaque année à cause de la pollution atmosphérique.
Quels sont ces polluants? Où les trouve-t-on généralement?
Alors, ces polluants, surtout de ce qu'on parle, c'est du charbon, enfin, des résidus de charbon noir, l'ozone et le méthane. Ce sont des résultats des productions industrielles, de brûler les résidus de la production agricole et surtout de l'industrie du transport. Donc si on s'attaque à réduire ces polluants, on peut avoir des résultats beaucoup plus immédiats et beaucoup plus importants pour la santé et pour le climat.
Et selon ce rapport, ces polluants tuent tout au plus 7 millions de personnes.
Alors tous les polluants, la contamination atmosphérique tue chaque année 7 millions de morts. Si on arrive à réduire la portion de ces polluants des vies plus courtes, on pourrait réduire au moins 2,4 millions chaque année, ce qui est quand même énorme.
Et la publication de ce rapport intervient au moment de ce qu'il est convenu d'appeler le scandale Volkswagen. Qu'est-ce que ça signifie, surtout par rapport à la pollution atmosphérique?
Bon, d'un côté, évidemment, le scandale Volkswagen, c'était une mauvaise surprise. On s'attend à des développements technologiques qui contribuent à réduire les émissions et pas à les cacher. Mais c'est vrai aussi que nous, on fait la promotion surtout d'un transport plus durable. Donc, ce n'est pas seulement les solutions technologiques, c'est aussi comment on va promouvoir un transport public, disponible, pas trop cher, et qu'on fasse moins d'utilisation des voitures privées, surtout dans les zones urbaines, et qui nous amène à créer cette contamination atmosphérique dans les villes qui passe dans nos poulmons et dans notre système cardio-circulatoire.
Quelles sont les 4 principales actions à prendre pour limiter les dégâts de ces polluants?
Alors, les actions sont, par exemple, promouvoir une diète qui serait moins dépendante de la production animale, enfin des viandes rouges surtout, mais plutôt cultive des locaux et surtout des plantes vertes et des grains, donc des diètes beaucoup plus saines, beaucoup plus balancées. De l'autre côté, cette promotion de cet véhicule moins polluante et un transport beaucoup plus durable. De l'autre côté, la production industrielle aussi doit avoir des technologies qui sont beaucoup plus adéquates à la solution. Et puis, les bénéfices qu'on peut avoir pour la santé si on réduit ses émissions et on commence à respirer un air beaucoup plus pur.
Dernière question, individuellement, vous, moi, qu'est-ce qu'on peut faire?
Déjà, connaître qu'il y a des polluants qui impactent très négativement sur notre santé. Deuxièmement, à niveau individuel, des diètes beaucoup plus balancées, pas si dépendantes de l'accès à la viande rouge particulièrement. Troisièmement, l'utiliser beaucoup plus les transports publics et un peu moins la voiture individuelle. Marcher ou faire de la bicyclette sont des mesures, évidemment, tout ce qui peut contribuer à un environnement plus sain autour de nous.
Voilà, et c'est avec Marianne Herra de l'OMS que se referme ce journal de la Radio des Nations Unies, une édition à retrouver sur l'Internet. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain, même heure, même fréquence.